Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'un sacré bonhomme, un grand patron, Gilbert Trigano, qui n'a pas inventé le club méditerranéen, comme on le pense souvent, mais qui en a fait un empire. Je n'aurai pas le temps de vous raconter toute sa vie, mais je vais vous raconter le début de sa naissance à Paris en 1920, jusqu'à ce moment où il prend en main les finances d'une association qui s'est créée après la guerre, le Club Méditerranée. J'ai écrit cette histoire avec Éloi Audouin-Rouzeau. La réalisation est signée Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
J'aime bien commencer mes histoires au début. Savoir d'où viennent les gens. Les Trigano sont des juifs d'Algérie. Raymond le père est d'Alger même et Félicie la mère de Blida. Quand éclate la guerre de 14, ils ont déjà 3 enfants. Et le père vient faire le zouave en France. Pas le rigolo, hein, c'est pas son genre. Il vient faire la guerre. Et quand la guerre est finie, en 18 ma foi, il traîne à Paris. Il n'a pas vraiment envie de rentrer à Alger. Et Félicie finit par le rejoindre à Paris en 1919 avec les 3 moutards. Il s'installe dans un petit pavillon à Saint-Maurice, derrière le bois de Vincennes, pas très loin de Paris. Alors qui était Raymond Trigano, le père de Gilbert? Ça compte l'image du père. C'est à partir de là qu'on se construit. Eh bien, c'était un homme de son époque, autoritaire, exigeant, pas le genre à faire des compliments, un peu raide, féru de valeurs républicaines, laïque, patriote, un rat de soc, pur jus, un radical socialiste. Quand il s'installe en métropole, le père est voyageur de commerce. Il vend du savon de Marseille, du café, puis des bâches, puis des tentes, tout ce qui se vend, en vérité. Il a la bosse du commerce. Et ça marche. Il crée une usine de torréfaction de café, ça cartonne. Et quand Gilbert vient au monde, les Trigano sont riches. Le père a une voiture avec chauffeur. Une dernière chose, avant d'assister à la naissance du petit Gilbert. Ils sont juifs, mais sans se forcer. Hein. Ils fêtent la Pâque et Kippour, un peu Shabbat. Et puis c'est tout. Un rat de soc, je vous dis. Gilbert, le 4e enfant de la famille Trigano, vient au monde le 28 juillet 1920. C'est un bébé un peu fragile. À 1 an, il fait des convulsions. Il manque d'y passer. Et le père, qui n'est pas très religieux, se retrouve à prier.
Elohim, prenez ma fortune. Prenez-la tout entière, si vous voulez. Mais je vous en supplie, pas le petit Gilbert.
Eh bien, vous n'allez pas le croire. Le petit Gilbert se remet, et quelque temps plus tard, la belle usine de torréfaction de café de Raymond part en fumée. Les Trigano se retrouvent ruinés. Et là, on va voir à l'œuvre le trait de caractère du père. Un truc que sans doute il a transmis à son fils Gilbert. Un de perdu, 10 de retrouvé. Il est ruiné, il repart à zéro. Leçon numéro 1, un Trigano ne capitule pas. Jamais. Vous verrez. Et donc, il se met à vendre du savon de Marseille et puis de l'épicerie. Sauf qu'à un moment, à la naissance du 5e, le père ne peut plus payer la maison de Saint-Maurice. Alors, il déménage à Montreuil-sous-Bois, dans la banlieue rouge, un petit pavillon un peu tristouné, au milieu des ouvriers. Changement de décor. Plus de voiture avec chauffeur. Plus de bonne non plus. Pour vous dire à quel point il est fauché, un jour, le père va voir leur ancienne bonne.
« Dites-moi, Marie, je suis un peu gêné de vous demander ça, mais vous n'auriez pas une pièce de 2 francs. C'est pour m'acheter un ticket de métro. Je vous le rendrai, hein. C'est promis.
Ça vous donne une idée de la situation. Cela dit, les Trigano sont pauvres, mais ils ne sont pas tristes pour autant, hein. À chaque fois que le père rentre 3 sous, il organise des fêtes dans la grande tradition juive séfarade. Et les cousins débarquent, et ça chante, et ça danse. Mais à part ça, c'est vrai, les 3 garçons dorment dans le même lit, tête bêche. Les petits récupèrent les vêtements des grands. Ils ont une ardoise chez le boulanger. Ils ne sont pas riches, mais ils ne sont pas malheureux. Quand elle le peut, la mère emmène ses enfants à la Comédie Française. Et quand ils rentrent, ils vont tous au fond du jardin, avec leur copain qui s'appelle Jean-Marc Thibault ou Serge Reggiani, et ils rejouent les scènes de Cyrano de Bergerac ou des Fourberies de Scapin.
Ah ! Fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux ! Dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient ? Oui ? Qu'il arrive ce matin même ? Ce matin même !
Est maintenant adolescent. Et il adore ça, se mettre en scène. Et il écrit aussi des scénettes qu'il va jouer avec ses copains dans les petites salles de Montreuil. Le père, autant vous dire, qui ne croit qu'au commerce et éventuellement à l'industrie, n'est pas très emballé par cette vocation d'artiste. En 1936, Gilbert a 16 ans. Toute la famille déménage dans le 10e arrondissement de Paris. Et tous les dimanches matins, religieusement, ils écoutent le concert des auditeurs à la radio, à la TSF. Et quand ils passent par exemple la Rhapsodie hongroise de Liszt, eh bien Gilbert fait le clown. Il imite un musicien qui a oublié son morceau. Ça fait marrer toute la famille. Il teste aussi avec eux les sketchs qu'il écrit. Il a ça dans la peau. Il arrive même à vendre des sketchs à des chansonniers célèbres à l'époque. Oui, oui, 1000 francs le sketch. Gilbert se sent une vocation d'auteur et de comédien. Et pendant l'été 36, il passe ses premières vacances à faire l'artiste dans le casino d'un hôtel du Crotoy, dans la Somme. Son frère aîné Edgar s'est lancé dans le commerce, comme son père. Lui, ça ne le tente pas trop. Un jour, son père veut le lancer coûte que coûte dans le commerce.
« J'ai pris la gérance d'une épicerie, Gilbert. Tu vas t'en occuper, hein, je te dirai comment faire. Et si dans 6 mois tu as fait ton chiffre d'affaires, eh bien tu pourras retourner à ton théâtre. »
Et il le fait. Il se lève tous les matins à 4h30 pour aller au hall. Il en rapporte des fruits et des légumes. Il lève le rideau et toute la journée, il vend. Et il a une très bonne idée. Tous les autres sont fermés le lundi. Eh bien lui, il ouvre le lundi. Et il fait ce jour-là 4 fois le chiffre d'affaires habituel. Et donc, il peut reprendre le théâtre. Et là arrive un passage assez douloureux de la vie de Gilbert Trigano. Un jour, un de ses copains va passer une audition pour entrer dans un cours d'art dramatique. Et il lui demande de venir lui donner la réplique. Un rôle de jeune premier. Il accepte. Et sur scène, face au jury, le copain s'adresse à lui.
« Oh toi, auquel aucune femme ne résiste !»
Et là, la salle éclate de rire. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas la tête d'un jeune premier. Mais lui, à 17 ans, ça l'a blessé. Il se sent laid. Il se sent très laid. Et il dira que la nuit suivante a été l'une des pires de sa vie. Il a pensé à aller se jeter dans le canal Saint-Martin. Mais souvenez-vous de la règle numéro 1. Un Trigano ne capitule pas. Alors il prend des cours avec Pierre Dux et Fernand Ledoux. Il est tellement dans son truc qu'il ne voit pas la guerre arriver. Il ne voit pas Munich. Il ne voit pas le mal. Alors qu'il est engagé en politique, à gauche. l'automne 1939, deux catastrophes s'abattent en même temps sur la tête de Gilbert. La guerre d'abord, mais surtout le concernant, un gros pépin de santé. Il est à Marseille chez sa marraine, il tombe, il se blesse à la jambe et la blessure devient un abcès et l'abcès devient un phlegmon, une infection grave. Après la défaite de juin 40, la mère le ramène en urgence à Paris. Il est question de l'amputer. Sa mère refuse et elle trouve un médecin qui le soigne. Elle lui a sauvé la jambe. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? À peine guéri. Un jeune juif, sous l'occupation allemande. Eh bien, il s'inscrit au cours Simon, un cours de théâtre. Et il se met à préparer le conservatoire avec Jean Carmé. Bien sûr, les Trigano ont vu ces petits films qui ridiculisent les Juifs au cinéma. Et leur concierge, qui est de plus en plus raciste à leur égard. Mais ils ne peuvent pas imaginer ce qui est en train de se tramer. Alors au début, ils se contentent de déménager dans le 19e arrondissement. Un commissaire de police qui habite l'immeuble vient les prévenir.
Vous devriez partir. Ça serait plus prudent. Partez loin.
Et puis un jour, l'aîné des enfants Trigano, Edgar, manque de se faire arrêter. Et c'est le déclic. Toute la famille franchit la ligne de démarcation, direction l'Ariège. D'abord Foix, et puis la petite ville de Mazères, 2200 habitants. Où Gilbert n'a qu'une idée, remonter sur les planches. Mais ne vous trompez pas, hein. Le père a mis sa famille en sécurité à Mazères. Mais au début, en tant qu'ancien poilu, il soutient le maréchal Pétain. Et Gilbert en tant que fils de son père aussi. En septembre 42, par exemple, dans la revue Pyrénées, il publie une grande lettre ouverte au maréchal. Maréchal, qu'un peuple entier vénère et que le monde admire, dans votre cœur immense, voudrez-vous vous pencher sur cette jeunesse inquiète qui prie et qui veut croire en elle, en vous, en la patrie et en Dieu ? Et c'est en travaillant, avec ses frères, dans une usine d'armement de Pamiers, en Ariège, que Gilbert bascule dans l'autre camp, celui de la résistance. L'usine fabrique des roues de tanks et de camions. Gilbert y est chauffeur de four, et avec son frère aîné, Edgar, il se lance dans le sabotage consciencieux de l'usine. Il verse des cochonneries, par exemple, dans le four à fonte, pour ralentir la production. Et ils se font pincer, et ils doivent fuir. Et c'est là que les trois frères Trigano entrent en clandestinité. Gilbert se met à rédiger des tracts. Il se rapproche du Parti communiste. À cette époque, il échappe à plusieurs rafles. Et il connaît la faim, les crampes au ventre le soir, quand il se couche. Et c'est à ce moment-là qu'il tombe un raid amoureux d'une jeune fille juive comme lui, dont la famille s'est aussi repliée à Mazères. Simone Saba, une parisienne, à qui il déclare sa flamme par un poème en alexandrin, s'il vous plaît.
Mais avant tout cela, je l'aime et je l'aime encore, et crois avoir tout dit quand je l'ai dit tout bas, et crois avoir tout vu quand sous ses cheveux d'or, je cherche dans ses yeux ce qu'elle ne dit pas.
Mais à côté de ça, dans l'ombre, sans rien dire à ses parents, Gilbert devient un chef important de la résistance. Et quand la libération arrive, il participe au procès des collabos. Et il devient journaliste à l'Humanité, qui, juste après la guerre, le charge d'organiser une grande fête de la jeunesse, au Veldiv. Il est chargé de monter le plateau artistique. Il embauche son copain Serge Reggiani, et il va voir Tino Rossi et Maurice Chevalier. Il leur propose de chanter gratuitement pour sa fête.
Gratuitement ? Mais mon petit ami, vous oubliez qui je suis. Mais non, monsieur Chevalier, bien au contraire. Tout le monde sait qui vous êtes, et personne n'a oublié que vous avez chanté pour les Boches. Alors si j'étais vous, je ferais ce petit geste, vous voyez, pour le peuple, pour la France. Bon, je vais réfléchir.
La fête est un immense succès. Et à la fin, le numéro un des communistes, Maurice Thorez, vient le féliciter.
Camarade Trigano, bravo! Vraiment bravo! C'était une réussite formidable!
En vérité, juste après, Gilbert prend ses distances avec les communistes. Il restera un compagnon de route, mais de loin. En juin 1945, Gilbert finit par épouser Simone. Le mariage a lieu à la mairie de Noisy-le-Grand et la cérémonie à la synagogue le lendemain. Et le couple s'installe dans un tout petit appartement dans le 19e arrondissement, 11 mètres carrés, les WC sur le palier, une table, une chaise et un évier. Le père vient de se relancer dans le commerce. Et il vient d'acheter une quincaillerie. Et juste en face, il a acheté une petite fabrique de bâches de camions. Gilbert s'occupe des bâches. Et un jour, une vieille parisienne entre dans la boutique.
Bonjour monsieur. Dites-moi, je cherche une tente. Vous en vendez pas?
Ah non? Non, une tente pourquoi madame?
Eh bien pour voyager, tiens. Vous voyez, pendant la guerre, je me suis fait la promesse que si les Fritz partaient avant moi, eh bien, je m'offrirai des vacances, des vraies. Et donc, je cherche une tente.
Et ça, c'est le début de la grande histoire de Gilbert. Parce que dans la foulée, il réunit une sorte de conseil de famille.
Bon, écoutez tout le monde, j'ai une idée. Et si on se lançait dans les tentes de camping?
Le camping? Mais où es-tu allé chercher ça?
Une vieille dame, figurez-vous, est venue me voir pour acheter une tente au magasin. À son âge.
Et alors?
Et alors? Ben, t'imagines combien de tentes on peut vendre aux jeunes? C'est l'avenir, je te dis.
Gilbert embauche 3-4 personnes et il se met donc à fabriquer des tentes de camping et à fournir des magasins. Et il invente ce slogan qui restera, le camping, c'est Trigano.
Le camping, c'est Trigano. Le camping, c'est Trigano.
La 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 la.
Si vous voulez une tente
et de belles vacances,
du matériel de camping,
choisissez Trigano, c'est si pratique
et tellement sympathique.
Le camping, c'est Trigano. Le camping, c'est Trigano.
Bien vu, Gilbert, bien vu. Car la France de l'après-guerre a soif de vacances, elle a soif de soleil, de bleu. Partout fleurissent les camps de vacances, les villages de toile. Et les Trigano redeviennent riches. Fini la chambre de bonne, Gilbert et Simone peuvent bâtir une famille. Serge est leur premier bébé en 1946. Trois autres suivront. Et les bases du Club Med sont posées. Et un jour d'automne 1949, le téléphone sonne dans l'atelier de l'avenue Jean Jaurès.
Monsieur Trigano?
Oui, lui-même.
Voilà, je suis en train de monter un camp de vacances là pour l'été prochain. Et je cherche des tentes de camping. Le ministère de la production industrielle ne m'a pas trouvé d'autres fournisseurs que des Amerlocs. C'est pour ça que je vous appelle vous. Dites-moi, vous êtes à Paris? On peut se voir?
Et Gilbert voit débarquer au magasin un colosse d'1m90, beau comme un dieu, qui s'appelle Gérard Blitz.
Oh, je viens de passer des vacances au club olympique de Calvi, en Corse. Je suis convaincu que les gens vont vouloir prendre des vacances. C'est l'avenir, les vacances, hein, le sport, la mer. Je veux créer un endroit où les gens feront ce qu'ils veulent, quand ils veulent et avec qui ils veulent.
Gilbert est électrisé. Cette histoire colle parfaitement avec son goût pour la mise en scène. Mettre en scène le bonheur. Et il va le faire avec ce Gérard Blitz, ce grand belge champion de waterpolo qui a refusé en 1936 de participer aux Jeux Olympiques de Berlin parce qu'il était à moitié juif par son père. et qui aujourd'hui s'intéresse au Bouddha, au yoga, à Shiva, à Krishna et aux femmes aussi. Et c'est lui, Gérard Blitz, qui le 27 avril 1950 dépose à la préfecture de police de Paris les statuts d'une association de loi 1901 à but non lucratif, le Club Méditerranée. Et il commence par faire imprimer des affichettes. Pour 15 000 francs, vacances au Baléares avec le Club Méditerranée, une formule de vacances neuve et sympathique, un village de toile confortable, un personnel nombreux, tous les sports méditerranéens, voyage rapide et confortable, distraction de qualité. $15 000, c'est à peu près un mois de salaire moyen à l'époque. Et l'idée de génie, c'est que pour ce prix-là, tout est compris, sauf le vin. La première année, 2300 personnes se laissent tenter. Blitz recrute 25 animateurs. Et les premiers vacanciers prennent le train jusqu'à Barcelone, puis le bateau jusqu'à Majorque. Et ils arrivent dans une pinède ombragée. Au début, c'est rudimentaire. Hein. La nourriture est mauvaise, les tentes sont vite crasseuses, l'eau des douches n'est pas chaude. Mais peu importe. Ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, ils viennent de sortir vivants de la guerre, ils rattrapent le temps perdu. Gérard Blitz les accueille torse nu, en paréo. Il a fait venir l'orchestre du Lido. Et une fois par semaine, les animateurs font des sketchs. Mais Gilbert Trigano n'assiste pas à tout ça. Lui, il est resté à Paris pour fabriquer les tentes. Il ne viendra au club pour la première fois qu'en 1954. Et en attendant, c'est toujours Gérard Blitz qui est à la manœuvre. Et lui, la comptabilité, voyez-vous, c'est pas trop son truc. Les premières années, le club Méditerranée perd autant d'argent qu'il ne gagne d'adhérents. Jusqu'à ce que Gilbert finisse par mettre son nez dans les chiffres. En 1953, il devient trésorier du Club Méditerranée. Il prévient que le trou se creuse, qu'il se creuse tous les jours. Et un jour, Gilbert Trigano et Gérard Blitz conviennent de s'associer. En 1955, ils créent une société à 50-50. Et là, débute une autre histoire. C'est Gérard qui a créé le Club Méditerranée. Mais c'est Gilbert qui va le faire prospérer.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.